permanence, vous êtes psychiatre, vous êtes psychanalyste, vous êtes écrivain. Deux livres que je connais en tout cas, Le Divan et le Prie-Dieu, et puis le... L'inconscient dans l'actualité.
Et maltraitance au travail.
Et maltraitance au travail. Merci. Alors, soyez la bienvenue, parce qu'on est très honorés que vous soyez parmi nous. Vous dites accompagner le développement de la personne et son chemin en humanité. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et elle correspond à ce que vous trouverez à la sortie, si vous le désirez. Je vous fais un peu de pub. Parce que je pense que vous faites des choses formidables. Peut-être certains connaissent. Des séminaires, des... Peut-être dites-vous, c'est mieux. Vous le direz mieux.
Je vais prendre la plaquette un peu. Oui, à partir des années 2000 à peu près, on a constitué une équipe pour proposer des séminaires en alliant différentes approches, et l'approche psychologique pour le développement personnel, mais l'approche aussi corporelle, parce que c'est très important aussi d'aller toucher dans son propre corps ce qui se passe, et l'approche spirituelle, ce qui fait que dans notre équipe, il y a un moine zen, il y a un prêtre. Et donc, on propose des ateliers avec la conjonction de ces différentes approches, et notamment des ateliers, certains ateliers qui sont basés sur des écrits sacrés. Et il y a des ateliers autour d'un évangile, et il y a aussi des ateliers, à un moment donné, il y a eu Abraham, là en ce moment, c'est surtout Job qu'on fait, c'est un atelier très puissant. Voilà, pour aider les personnes dans leur propre cheminement. Il y a aussi des méharés.
Oui. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant, je le pense. Je n'ai jamais eu le plaisir encore, peut-être que ça va venir, de vous rejoindre. Mais je pense que ça doit être une qualité remarquable pour le bien de notre humanité déjà personnelle et puis le rayonnement autour de nous. Je vous laisse nous exprimer en tout cas. Voilà.
Merci Eliane et merci aux amitiés judéo-chrétiennes de m'avoir invitée. Voilà, alors il me faut parler autour de cette phrase si célèbre, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est donc question, hein, le cœur de la question c'est l'amour, avec tout ce que ça comporte de danger, parce que l'amour peut signifier à la fois le plus mensonger et aussi le plus sublime. Et si vous vous rappelez une chanson de Brassens, il disait « Parlez-moi d'amour et je vous casse la gueule » ou quelque chose comme ça, « Je vous casse la figure ». Et oui, parce que c'est tellement la porte ouverte à tout, dans le plus beau, comme je disais, et puis aussi le plus terrible. Alors, ce qui est bien dans cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est qu'il est question d'amour, d'une invitation à l'amour, et en même temps, déjà là, dans cette phrase, on a la clé pour discerner, justement, qu'est-ce qui peut être du faux amour et qu'est-ce qui est du véritable amour. C'est ça qui est magnifique, c'est en quelques mots, déjà, nous est donné une clé fondamentale pour avoir plus de discernement sur la question. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase? Elle dit qu'il y a deux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux personnes, une relation. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, tu aimeras ton prochain à la mesure que tu t'aimes toi-même. Donc si je ne m'aime pas, si je ne tiens pas compte de moi, si je ne suis pas assez attentif à moi, comment pourrais-je l'être pour l'autre? Ça pose vraiment la question de base, la question cruciale. Alors, je ne connais pas l'hébreu, j'ai lu dans un livre, ceux qui connaissent l'hébreu vont me dire si j'ai raison ou pas, ton prochain, en hébreu, c'est Réa, je crois.
Réa.
Voilà. Il paraît que ça veut dire compagnon.
Oui.
C'est ça.
C'est comme ami,
ami-compagnon. Oui. Il disait même plus, dans ce bouquin, il disait, celui dont je veux devenir le compagnon. Est-ce que c'est un peu juste ça?
Le mot qui suit. Qui précède, pardon, oui. Et alors, tu aimeras pour ton prochain.
Ah.
Et c'est là où il y a des développements auxquels on a déjà procédé.
D'accord.
Et je ne sais pas si vous allez aborder cela. Il ne s'agit pas d'aimer son prochain comme on aime sa fiancée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de lui vouloir tout le bien que l'on cherche pour soi.
Voilà. Donc voilà. Donc il y a... moi j'entendais beaucoup la dimension de compagnonnage aussi. D'être...
difficile.
C'est difficile.
C'est difficile à traduire. Réa-écha. Je ne suis pas un exégète. Donc, je peux apporter des précisions plus tard.
D'accord.
Mais pour l'instant, Réa-écha, ça peut être son ami, ça peut être traduit par l'ami. Je crois qu'il y a un autre mot en hébreu pour dire véritablement le prochain.
Mais d'accord.
Je pense que c'est celui qui vit avec toi. L'étranger qui vit avec toi.
D'accord.
La toute première fois qu'il est, lorsque dans la Torah, cette phrase est écrite, c'est à propos de l'étranger, parce que vous avez été étranger en Égypte.
C'est dans le contexte.
D'accord. Alors, cette question-là nous amène à l'altérité. Parce que ce que j'entends étranger, la différence. Et il y a autre qu'on ne connaît pas. Et autre qu'on ne connaît pas, l'autre personne en face, mais tu aimeras comme toi-même. Donc, l'autre aussi qu'on ne connaît pas en soi. Alors, mon propos, je vais l'aborder de deux façons. D'abord, dans un premier temps, justement, toute la question de ce qui n'est pas l'amour ou ce qui est en difficulté dans l'amour, parce que on n'est pas justement dans cette question d'altérité. Il n'y a qu'un. Alors, on croit aimer, mais s'il n'y a qu'un, ce n'est pas du véritable amour. Ça, c'est ce sera la première partie. Et la deuxième partie, je parlerai de... après avoir développé justement cette première partie, je pourrais mieux développer quelles sont les conditions préalables à un amour plus véritable. Je m'appuie sur mon expérience, et je m'appuie beaucoup sur un livre de John Wellwood, donc vous avez les coordonnées là, John Wellwood, qui a écrit « Parfait amour, imparfait bonheur ». C'est un psychothérapeute américain bouddhiste, et qui est dans ses auteurs récents, qui revoit le bouddhisme avec la pensée occidentale. Et il y a des choses assez merveilleuses qui sortent actuellement par ces auteurs-là. Lui, il a écrit aussi « La psychologie de l'éveil », qui est un très bon bouquin. Mais pour notre sujet, « Parfait amour, imparfait bonheur », je m'en suis beaucoup servi et il y a des choses remarquables dedans. Donc la première partie, on pourrait dire les mensonges de l'amour ou les perditions de l'amour, je pourrais l'intituler comme ça, et là aussi je vais diviser en deux, et d'abord on va parler du piège des bons sentiments, ensuite dans un deuxième temps je parlerai des va-et-vient de l'amour, voilà, de sa difficulté à rester dans l'amour et comment il peut se transformer en haine. Alors le piège des bons sentiments, ou je dirais aussi les ailés de l'amour, on peut voir ça. Ces élèves de l'amour, est-ce qu'on n'a pas été chacun à un moment donné, est-ce qu'on ne l'est pas encore? On veut bien faire, on a des bons sentiments, et puis pourquoi pas, c'est pas mauvais en soi, mais si on est juste là-dedans, dans cette exigence de charité, cette tendance, on peut tout à fait être enfermé en soi-même, et pas du tout dans la rencontre, dans l'ouverture avec l'autre. Alors, je vais vous donner un exemple. Il s'agit d'une personne qui a été prise dans un attentat terroriste à Paris, au moment où il y avait des attentats terroristes. Et celui-là avait fait beaucoup de mal, il y avait eu des morts. Et elle a été prise dedans. Elle s'est retrouvée allongée, baignant dans son sein. Oui, alors intéressant, hein, là-dessus, ça. Dans son sang. La jambe broyée. Et puis ça criait autour d'elle, elle se rendait compte qu'il y avait des morts. Donc vous imaginez le chaos, le cataclysme tout d'un coup qui la dévaste. Et une personne qui était là a voulu s'approcher d'elle pour lui venir en aide et lui a dit ces mots, ce n'est pas grave. cette personne, vraiment, elle a dû être habitée de bons sentiments. Elle voulait bien faire. Voilà le vouloir bien faire. Elle voulait bien faire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en l'occurrence, cette femme voyait bien que c'était très grave. Et on peut imaginer l'état de choc, de détresse, et on peut encore même peut-être pas imaginer parce qu'on ne l'a pas vécu. En tout cas, en avoir une toute petite représentation de cet état de choc et lui venir lui dire que c'était pas grave. C'est-à-dire, c'est rajouter une violence à la violence qui lui a été faite. C'est-à-dire la violence de ne pas reconnaître que c'est grave et qu'elle vit quelque chose de très difficile, de très traumatisant. Donc c'est une autre violence. Donc, par des bons sentiments, on peut faire violence à l'autre. Ça veut dire qu'on est avec son idée, enfermé dans son idée, je vais faire du bien, et puis, mais on n'est pas du tout à l'écoute de l'autre. En l'occurrence, là, être à l'écoute de cette femme, c'était voir qu'elle était dans un cataclysme, et donc que c'était grave pour elle. Donc peut-être s'approcher, peut-être lui prendre la main, juste la regarder, voir ce qu'elle avait besoin, enfin, X choses, mais enfin, être en rencontre, en écoute avec cette personne-là. Donc ça, c'est le grand danger. Et le problème des religions, c'est qu'elles invitent à l'amour, mais parfois, dans la façon de le dire, il n'est pas précisé tout ça. Il y a, bien sûr, inviter à l'amour, on ne va pas dire que c'est mal, mais en même temps, l'amour ne se construit pas, l'amour ne se veut pas, on ne peut pas vouloir l'amour. Ce qui est possible, c'est qu'il y ait une ouverture du cœur qui se fasse et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous anime et qui est dans la rencontre avec l'autre qui fait qu'on va pouvoir s'ouvrir à ce dont il a besoin, s'ouvrir à ce qu'il vit et y répondre. Donc, oui, pour continuer là-dessus, je vais reprendre aussi quelque chose que le philosophe Alain Finkielkraut, je ne sais pas comment on prononce comme ça, bon, disait justement à propos de l'humanitaire. Et ce n'est pas non plus pour dénoncer l'humanitaire en disant que ce n'est pas bien, c'est très nécessaire l'humanitaire. Mais il disait, il faut y faire attention comment on le fait cet humanitaire-là. La génération humanitaire n'aime pas les hommes, elle aime s'occuper d'eux. Donc, il y allait carrément, hein, là. Et c'est vrai qu'en tant que donateur, on peut des fois être bien plus préoccupé de mener une activité qui va remplir notre temps, qui va faire qu'on se sent utile, que ça va apaiser notre conscience, qu'on va avoir bonne conscience, même peut-être secrètement nous flatter, oui, on fait de belles choses, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois aussi une tendance à rester maître du jeu? Voilà, on sait ce qu'il faut donner, on sait ce qu'il faut apporter, sans vraiment être à l'écoute, se mettre à l'écoute de qui on approche. Alors je disais que la religion, bon, ça ne suffit pas de dire j'invite à l'amour, et pire, parce qu'en tout cas dans la religion catholique ça a existé, j'en suis témoin, et j'ai entendu des personnes en parler, dire qu'il faut s'oublier au nom de l'amour. Alors là, où va-t-on? Et alors, je vous livre des paroles comme ça que j'ai entendues en séminaire ou à mon cabinet. Alors, une femme, que j'ai appelée Aurélie, qui disait « Les autres, ma religion m'a appris qu'ils devaient passer avant tout. Hein, » c'est une religion catholique. Hein. « Quand j'étais petite, ma mère était souvent malade. Avec mes sœurs, on m'a mise dans un pensionnat religieux. » Elle était en pensionnat religieux très tôt, vers 3-4 ans. Les religieuses, elles nous faisaient la leçon. Il faut être bien gentil, bien sage, parce que votre maman souffre, il ne faut pas lui faire de la peine, il ne faut pas la fatiguer. Et d'ailleurs, il fallait penser sans arrêt à l'autre. Par exemple, quand on était devant son assiette, qu'on avait un peu de mal à finir, ben, il fallait penser aux enfants qui mouraient de faim, à l'autre bout de la planète. Et à force d'être sage, et bonne, et gentille, et à force de me taire, je suis devenue une véritable automate. Et maintenant que je mesure tous les dégâts de cette éducation, j'en arrive à haïr tout le monde. Elle avait une rage. Alors vous voyez comment, en voulant inciter à l'amour, finalement, on provoque l'inverse. Pour ça, je disais, l'amour ne se veut pas, l'amour ne se commande pas, l'amour ne se construit pas. C'est une ouverture, ça passe par les entrailles. Il y avait un très beau mot, je ne sais plus qui disait, les entrailles de miséricorde. C'est-à-dire que c'est dans... Il y a une ouverture à un mouvement à l'intérieur du corps qui nous anime et qui nous dépasse. On ne sait pas d'où ça nous vient, ça nous traverse et ça nous amène à, vers l'autre, ça nous conduit vers l'autre. Alors, une autre personne qui disait en entretien, comme ça en séance, il faut donner, donner, donner et pendant ce temps, je me perds parce que je ne prends pas en compte mes besoins. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, si les religions disent simplement aimer, elles oublient justement tout ce qui est dit dans cette phrase-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que ça ne peut se faire que si l'on s'aime soi-même, que si on s'accepte soi-même, que si on est capable de se recevoir soi-même, et tout ce qu'il y a de bizarroïde, étranger en nous, inconnu, parce que ça surgit au fur et à mesure du temps, et c'est toujours de l'inconnu. Et voilà, c'est juste ça. Et ça veut dire aussi, donc, cette capacité à de se recevoir, et on verra un peu plus tard, cette capacité aussi à recevoir. Une des choses les plus difficiles, c'est de recevoir. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc là, la première partie, donc c'était cette question du piège des bons sentiments. Et puis maintenant, je vais parler de l'amour à l'épreuve de la réalité, le va-et-vient de l'amour. Il peut se trouver, heureusement il se trouve, qu'à certains moments, notre cœur est ouvert et on va ressentir quelque chose de l'ordre de l'ouverture, de la chaleur, qui va nous amener à être porté vers quelqu'un. Quels que soient les niveaux de cet amour-là, ça peut être un amour pour un enfant, ça peut être un amour pour quelqu'un qui est susceptible de devenir un ami, un amoureux, ou simplement un amour plus pour un inconnu dans la rue, mais tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Mais ce mouvement d'ouverture, quand il s'agit des amoureux, on s'est largement chanté, qu'est-ce qui se passe là, vraiment un ravissement, ça nous porte cet élan qui est en nous et qui nous traverse, ça nous porte. Et on a envie à ce moment-là le bonheur de l'autre, on est porté à l'écouter, à essayer de le comprendre, à être présent à lui, peut-être à lui faire des dons, enfin, etc. Si on se met à vivre plus régulièrement avec cette personne, à la rencontrer souvent, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? C'est cette espèce de paradis initiatique, il va changer, parce qu'à un moment donné, forcément, à un moment donné, l'autre il va nous agacer. Et puis pire, à certains moments, on va avoir carrément de l'hostilité, ou de la rancœur, des griefs contre lui, ou de la jalousie, enfin, ou de l'envie, tout ce que vous voulez. Les sentiments hostiles vont arriver. Et là où il était le bel amour du début, hein. Et qu'est-ce qui fait que l'amour peut se transformer comme ça, en hostilité, en haine, un très bel amour, au départ, on a bien vécu tous des sentiments très porteurs comme ça, et puis ça change, tout d'un coup, bof, puis même plus que bof, il commence à m'énerver. Voilà. Et aussi, je vais faire référence à des bouquins de Guy Corneau, qui a beaucoup parlé de ces questions-là, dans « N'y a-t-il pas d'amour heureux ?» et puis aussi dans « Victime des autres et bourreau de soi-même ». Si c'est une personne avec laquelle on vit, son partenaire, eh bien on peut rentrer carrément dans un jeu qui s'appelle le jeu « Victime-bourreau ». C'est-à-dire que comme l'autre nous agace... Eh bien, on peut réagir de deux façons. En essayant de se défendre, en essayant aussi qu'ils comprennent que ça ne va pas, etc. Et on l'attaque de mille façons. Ça peut être une violence très directe, même carrément en venant au coup. Mais ça peut être aussi des petites attaques, comme ça, des petites perfidies. Enfin, il y a des tas de façons. Hein. Et puis, ça peut être aussi être victime, c'est-à-dire sans arrêt se plaindre du mauvais sort qu'il nous fait subir. Des fois, c'est juste dans un silence réprobateur. Enfin, il y a mille façons de signifier à l'autre qui ne convient pas. Et alors, pourquoi ce changement? C'est qu'en fait, nous sommes tous plus ou moins divisés à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous, qui peut être comme ça en ouverture par rapport à l'autre, être réveillé par les qualités de l'autre, par son être, et puis quelque chose de beau s'ouvre en nous, le cœur s'ouvre. Et puis il y a d'autres parties en nous, eh bien, qui attendent de l'autre. C'est-à-dire, alors c'est ce qu'on appelle l'amour dévorateur. C'est, ben oui, mais en même temps, il faut qu'ils répondent. Et puis ils répondent un peu comme j'aurais besoin. Un peu même beaucoup comme j'aurais besoin. Puis si c'est pas exactement comme il répond pas exactement comme j'aurais besoin, alors là, ça commence à mal tourner. Puis au fur et à mesure des griefs, ça tourne au vinaigre. Il peut se faire aussi que sur cette personne-là, je projette des images qui ne lui correspondent pas du tout. C'est-à-dire que je ne le vois pas. On retourne à ce que je disais au départ, c'est-à-dire on n'est pas deux, on est un. On est un. Je suis avec mes attentes et l'autre doit correspondre à mes attentes. Si vous avez lu Martin Buber, son livre « Je et tu », c'est remarquable, il montre bien comment ce « je et tu », cette relation est très difficile. On l'a par instant, et très souvent, le « tu » il tombe dans cela, il devient cela. C'est-à-dire que l'autre n'est plus un sujet, il devient un objet. Et l'objet, ben, l'objet qui doit répondre, c'est un objet utile qui va répondre à mes attentes. Donc il correspond à une image qu'il doit être comme je le pense. Ou une autre image aussi, c'est-à-dire des images que je trimballe à l'intérieur de moi et qui sont des images issues de mon histoire, de mon enfance, où peut-être j'ai été malmenée par certaines choses. Et par exemple, j'ai projeté sur lui la personne qui m'abandonne. Alors, il n'est peut-être pas du tout en train de nous abandonner, mais je vais voir que pour une petite chose de rien du tout, ah ouais, il m'a abandonnée là. Voilà, donc on en fait toute une montagne. Et ça, c'est des histoires qu'on se trimballe de notre enfance, où peut-être à un moment donné, on s'est senti abandonné, et ça reste en nous, et après, on continue à projeter cette image-là sur autrui. Ça peut être aussi qu'il nous veut du mal, il y a X choses qui peuvent être comme ça, projetées sur l'autre personne, où on ne le voit pas en tant que lui-même, mais une image qu'on se trimballe à l'intérieur de nous. Alors là, évidemment, l'amour peut se transformer très rapidement en haine et donner des batailles impitoyables. Ça, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, il n'y a qu'à regarder autour de soi tout le temps, même soi-même, avec soi-même, avec son partenaire. Mais c'est très intéressant en même temps, parce que quand ça se passe, si ça se passe par exemple avec son partenaire, parce que là, je crois que c'est vraiment l'endroit de travail par excellence avec son partenaire. On l'a tous les jours, pratiquement, enfin, ou presque. Et forcément, il y a tout ce côté de nous où on projette, ou tout ce côté de nous où on attend de lui qui répond à nos attentes, et bien ça va surgir sans arrêt. Et l'autre, ça va se manifester, ça va faire de la souffrance. Ça va faire des incompréhensions, ça va faire des batailles. Et cette souffrance-là, elle est très utile, parce qu'elle nous oblige, si on veut vraiment prendre le problème à bras-le-corps, elle nous oblige à aller voir qu'est-ce qui se passe en nous. Pourquoi cet amour qui était si beau au départ tourne comme ça au vinaigre? Et quelle est ma responsabilité là-dedans? Et là, c'est pour ça que je dis que c'est une véritable assaise. Et je crois que c'est Marie-Ariel qui disait « Pour un être humain, en aimer un autre est la plus difficile de toutes nos tâches. » Donc, aimer quelque chose, quelqu'un qui est loin, qui est étranger, bon, je vais donner un petit peu pour l'Africain qui ne mange pas à sa faim, ben oui. Mais celui qui est là constamment, quand je me réveille, à midi, etc., voilà, et puis qui m'énerve parce que pour des toutes petites choses, c'est bien plus difficile. Mais c'est là où on est confronté au réel, et au réel et à nos difficultés propres. Alors, donc je vais aborder la deuxième question, enfin, c'est pas la deuxième question, c'est plutôt un peu l'aboutissement de ce développement, c'est... À partir de ce que je vous ai dit, là, on peut commencer à réfléchir à quelles sont les conditions préalables pour une ouverture à l'amour. Donc, j'ai parlé d'altérité, Et je parlais d'un oui. Parce que dans tout ce que je viens de dire, c'était un non. C'était un non. Un non à soi-même d'abord. Si je ne m'écoute pas, je ne peux pas écouter l'autre. Un non à l'ouverture. Je suis avec mon idée préconçue de ce qui doit être et je ne suis pas en ouverture avec l'autre. C'est un non aussi à l'autre parce qu'il n'est pas comme je le désire. Voilà. Donc à chaque fois un non. Et là justement, la condition même, c'est de dire oui. C'est dire oui à ce qui est. Et dire oui à ce qui est, c'est d'abord dire oui à moi-même. Alors, oui à moi-même, c'est-à-dire apprendre à m'accepter tel que je suis, à m'aimer tel que je suis. Et c'est une bien grande difficulté, parce que en nous tous, plus ou moins, en nous tous, on a un enfant qui pense qu'il ne mérite pas d'être aimé. Alors on l'a plus ou moins, parce que suivant ce qu'on a vécu enfant, il y en a qui l'ont plus que d'autres. Il y a des gens qui ont vécu des enfances plus difficiles que d'autres, qui ont été moins choyés. Mais même en étant choyés, il y a bien eu un moment ou un autre où les parents n'étant pas parfaits, l'enfant ne s'est pas senti compris, entendu, reçu, etc. Et donc, il peut s'inscrire à l'intérieur de lui, plus ou moins fortement, peut-être un tout petit peu, mais on l'a tous au moins un petit peu, cette idée que, comme je suis pas aimable. Parce que si le parent a été défaillant à l'époque, quand on est petit, l'enfant pense tout de suite que c'est de sa faute. Il est le centre. Vous voyez bien, si vous voyez des enfants autour de vous, l'enfant est très égocentrique et c'est normal. Il est en train de se structurer, de construire son moi. C'est nécessaire qu'il soit le centre. Et puis, il y a les parents qui le soutiennent, qui le contiennent, qui lui apportent des choses, etc., qui lui font son éducation. Mais c'est normal qu'il soit le centre pendant un certain temps. Et donc, mais comme il est le centre, il pense que tout ce qui se passe, c'est à cause de lui. Donc si les parents ne sont pas déficients à certains moments, c'est forcément parce qu'il n'a pas bien fait, parce qu'il n'est pas à la hauteur, parce qu'il ne vaut rien, etc. Et on a des traces de ça à l'intérieur de nous. Donc, je ne peux pas m'aimer parce qu'en fait, je ne me pense pas aimable, du moins comme je suis. Si j'essaye de correspondre à l'image que les autres, que je pense que les autres ont de moi, que mes parents avaient de moi, là peut-être je suis aimable, mais je ne suis pas moi, en fait, je corresponds à une image. Mais comme je suis, peut-être non, je ne dois pas être aimable comme ça. Alors cette blessure de l'enfant peut provenir de deux choses, soit de carences affectives, plus ou moins fortes, hein, j'ai bien dit, il y a des degrés différents suivant chacun. À certains moments, il ne s'est pas senti accepté ou aimé comme il avait besoin de l'être. Ou autre chose que la carence, le parent a pu être présent, mais n'a pas été adéquat. Il peut avoir été trop contrôlant ou trop manipulateur, demandant trop à l'enfant de correspondre à ce qui lui paraissait être bien. Et du coup, l'enfant ne s'est pas senti reconnu pour ce qu'il était, avec le droit de sa propre liberté, de sa propre autonomie. Donc là aussi, il ne se sent pas aimé pour qui il est, lui. Donc ça fait une difficulté de confiance, confiance en soi, confiance dans la vie et confiance dans l'autre. Ça amène le cœur à se fermer, à se recroqueviller, à se crisper, comme une crispation du corps, du cœur. C'est ça que je dis bien, c'est dans le corps que ça se passe, c'est dans les entrailles, ça se ferme, parce que c'est une souffrance. Et l'enfant n'a pas les outils pour faire face à cette souffrance. Donc, ça se fait malgré lui, en lui, il y a quelque chose qui se ferme pour se protéger de cette souffrance et pour ne plus avoir à la vivre. Seulement, le problème, c'est que... Alors, c'est bien, ça permet de continuer à vivre, mais en même temps, le problème, c'est que ça reste. Ça reste plus ou moins, bien sûr, mais ça a une tendance à rester. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une patiente. Comme ça, ça va vous expliquer un peu comment ça peut se jouer. Je vais l'appeler Élise. C'est une femme de la cinquantaine. qui est une battante. Professionnellement, elle y va depuis plusieurs moments, elle réussit bien et tout, très dynamique. Elle est remariée, elle a été divorcée, elle est remariée avec un homme un peu plus âgé qu'elle. Et lui est très doux, très gentil, elle le reconnaît, elle a beaucoup de sincérité. Quand elle parle d'elle, elle joue le jeu franchement et elle ne se cache pas les choses. Elle dit oui, c'est vraiment très gentil mon mari, mais alors moi, pour une broutille, elle lui rentre dedans, elle lui fait des scènes pas possibles, elle le descend vraiment, carrément, et elle se rend compte que vraiment il est tout gentil et tout ce qu'elle lui fait subir. Elle a cette honnêteté-là de reconnaître, mais qu'est-ce qui me prend, je ne peux pas m'en empêcher, j'arrive, je le vois là, il m'énerve et boum, la balance. Alors bon, on essaye de creuser la question, et elle me parle de ses rapports avec son père. Elle a eu un père très autoritaire, très rigide, très dogmatique, très entier, et elle, pour résister face à un père pareil, et bien elle est devenue comme lui. Et elle est devenue un peu masculine, et elle l'a provoquée, donc c'était les bagarres, mais au moins elle n'était pas écrasée. Et au moins elle se sentait exister. Et ça lui a donné des qualités, puisqu'elle est battante, professionnellement elle a bien réussi et tout. Seulement, être en face d'un homme qui est tendre et gentil, mais c'est pas supportable. C'est pas supportable. Ce qu'elle connaît, ce qui l'a construit, elle, son identité à elle, c'est d'une femme qui se bat. Alors là, problème. Donc on a beaucoup discuté autour de ça, et elle commence à lâcher. Et lâcher, c'est pas évident, lâcher. Parce qu'elle est en perte d'identité. Elle ne sait plus qui elle est. Elle a perdu ce côté femme battante et tout. Il lui restera toujours un peu dynamisme, ça, je n'ai pas de souci. Mais quand même, elle lui dit, mais je ne reconnais pas. Là, dans cette réunion-là, tel soir, d'habitude, je serais montée au créneau et tout. Ben là, je me suis dit, c'est pas la peine, je reste tranquille. Je ne sais plus où j'en suis. Elle a perdu. Et puis, autre chose aussi, elle est en train de voir que derrière son côté costaud, fortiche, il y a une certaine fragilité, et elle est en train de reconnaître que, eh ben, derrière ce côté assez soleil, hein, on pourrait dire solaire, en fait, eh bien, elle se croit vraiment pas valable. Vraiment pas valable. Parce que, en tant que petite fille, elle n'a pas été reconnue par son père. Donc, elle est toujours en manque de cette reconnaissance de ce père. Ça amène un sentiment de solitude, elle ne l'aura jamais. Elle ne l'a pas eu suffisamment, elle ne l'aura jamais. Et il y a qu'elle qui peut se donner à elle du bon. Personne jamais ne pourra remplir ça, ce vide-là, ce manque-là. Mais comme elle fait ce chemin-là, elle commence à être un tout petit peu plus douce avec son époux, à lui être moins dans le rentre-dedans, à comprendre aussi que cette tendresse qu'il lui donne est très bénéfique pour elle. Et elle commence à se laisser plus toucher, comme apprivoisée par ça. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, toute la question de savoir recevoir. Et ça, c'est essentiel. Essentiel, déjà. Si on ne sait pas recevoir, si on reste avec le cœur, et Dieu sait que c'est difficile, regardez. Moi, je me suis fait une entorse. J'ai dû recevoir beaucoup, c'était pas du tout évident à certains moments. Et en même temps, et je dis c'est une grâce parce que ben, ça a encore un peu fait fondre un peu plus mon cœur, quoi. C'est merveilleux de recevoir de la tendresse. En plus, les gens qui me l'ont prodigué, ils étaient enchantés de ça. Bon, là, je n'ai pas des gens privés. Voilà. Et donc, vraiment, ce côté qui nous fait fondre la glace qui peut être autour de notre cœur, qui le rend tendre et qui le rend ouvert à cette palpitation de l'amour, de savoir recevoir. On a parlé que je faisais des ateliers. Dans Autour d'un évangile, on propose le bon samaritain, à un moment donné, sur deux jours. Comment, alors, vous la connaissez, la parabole du bon samaritain? Comment je la fais travailler, entre guillemets, la fais explorer? Eh bien, je ne commence pas par soyez le bon samaritain pour l'autre. Si vous êtes l'homme blessé, alors essayez de voir qu'est-ce qui en vous est blessé. Donc on prend un temps, par des rêves éveillés, on a des tas de petits outils comme ça qu'on peut servir. Essayez de toucher, parce qu'on a tous été blessés à un moment ou à un autre de notre vie. Et qu'est-ce qu'il en reste? Donc, tête, cette blessure, il en reste encore un peu quelque chose qui avise. Donc d'aller toucher ça. D'abord, toucher la personne blessée en nous, l'enfant blessé. Et puis, dans un deuxième temps, je leur propose de se rappeler un moment de leur vie où quelqu'un leur a donné quelque chose, a été bon pour eux, et c'était vraiment bon, ils ont pu le recevoir, et ça a été important pour eux. Et de recontacter, ça c'est très important, c'est-à-dire si vous recevez de quelqu'un que vous sentez que ça vous fait un bon effet, un effet de dilatation, surtout, rappelez-vous-en, laissez-vous vous en imprégner, revenez dessus, et là c'est ce que je propose aux gens, de revenir dessus, parce qu'à chaque fois il y a un agrandissement de l'expérience, on va plus loin, et à ce moment-là, cette carapace de notre cœur encore se disparaît encore un peu plus. Et seulement à ce moment-là, on peut dire, eh bien, voilà, ce que cette personne m'a donné, et je peux voir à l'effet de bienfait en moi, de bonheur, dilatation, je peux voir ce qu'elle m'a fait de bon, j'ai envie aussi de le faire à autrui. Et là, on arrive enfin au bon samaritain. C'est vrai aussi qu'en tant que thérapeute, on évolue dans sa façon d'être. C'est vrai que de plus en plus, suivant ce qui se passe, j'incite vraiment très fortement mes patients à aller s'occuper de leur enfant intérieur. C'est-à-dire, il y a des moments où certains peuvent toucher des grandes, grandes détresses en eux, des enfants qui ont été très en détresse. Et je les incite vraiment à aller leur parler carrément. S'il devenait le bon parent de cet enfant et lui parler, le consoler, lui donner des bonnes paroles, comme il le ferait à un véritable enfant en détresse, de le faire. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. En même temps qu'il y a cette rencontre avec cet enfant blessé, en tout cas dans les séances, on essaye de le laisser parler, de le laisser s'exprimer, parce qu'il n'a pas eu droit au chapitre, on l'a fait taire. Là, on lui donne le droit au chapitre. Ce qui peut se passer, ce qui se passe même assez souvent, c'est-à-dire que quand certaines paroles arrivent en disant « Ben oui, il m'a manqué ça, ou j'ai souffert de ça, et puis je peux en vouloir à telle personne, etc. » Tout ce qui peut animer un enfant qui vit des choses difficiles, alors on le laisse parler en séance. Et ce qui peut arriver tout de suite en même temps, très rapidement, des fois presque tout de suite, c'est-à-dire l'image d'un parent maltraitant qui arrive, et qui est dans la personne. C'est-à-dire qu'une même personne va dire « Oh oui, je me rends compte, à cette période-là de ma vie, quand même, c'était difficile ce que je vivais. » Et tout de suite après, « Qu'est-ce que je vais inventer là ? Mais enfin, quel cinéma je suis en train de me faire ? Mais je suis nulle ! » Et vraiment, un enfant qui maltraite, qui donne des coups. Donc, pas un enfant, j'ai dit, oui, c'est un parent. Un parent qui donne des coups. Donc vous voyez, quand je disais qu'on était divisé, c'est ces deux parties-là, une partie de enfant qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir du cachot et puis dire un peu, bah oui, il m'est arrivé des choses, j'ai des blessures, et tout de suite, la censure, ça n'a pas le droit d'exprimer ça, ça n'existe pas, c'est une invention, enfin, etc. Et de voir ça, qu'on peut être double et qu'on peut vraiment se haïr soi-même, c'est tout le problème de cette haine, bon, on y reviendra tout à l'heure. Comment c'est ça le moteur de la haine sur le plan collectif. C'est cette haine qu'on a tous, plus ou moins, toujours pareil, de soi, avec soi-même. Oui, moi j'ai déjà dit tout ça. Ah oui. Si le cœur est fermé, recroquevillé, ou quand le cœur est fermé, recroquevillé, parce que même si on s'ouvre, c'est jamais complètement ouvert, ça s'ouvre, ça se referme, etc. Et quand ça se referme, il manque quelque chose. Il y a comme une béance, un blanc, quelque chose d'essentiel. Cette vie-là nous manque. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? À notre époque, c'est facile. On a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de remplir ce manque. Il y a plein d'addictions. Alors au niveau de l'avoir, la société de consommation, au niveau de la réussite, du pouvoir, des loisirs, de l'hédonisme, une fuite en avant méga. Mais il nous manque toujours l'essentiel. Et ce que je disais tout à l'heure, dans cette haine, dans ce ressentiment, parce qu'il nous manque l'essentiel, eh bien, c'est le creuset de toutes les violences qui existent par le monde. Les guerres, les injustices, la misère, les désastres écologiques, la misère qu'on fait subir à la nature. Et elle s'inscrit, elle s'enracine dans cette problématique de soi avec soi. Et je vais reprendre une phrase de Martin Luther King à ce propos, qui disait « Tôt ou tard, tous les peuples du monde devront découvrir un moyen de vivre ensemble en paix. Si cela doit être accompli, l'homme doit élaborer pour tous les conflits humains une méthode qui rejette la vengeance, l'agression et le représailles. Le fondement d'une telle méthode est l'amour. » Précisons, l'amour qui est d'abord l'amour de soi-même. Donc, première condition, savoir s'aimer soi-même, apprendre à s'aimer soi-même. La deuxième condition, c'est savoir accepter l'imperfection de ce monde. C'est-à-dire, on a tous soif d'amour et d'un amour absolu, d'un amour inconditionnel. Mais cet amour-là, sur Terre, n'existe pas. Que ce soit le nôtre ou celui d'un autre, celui des autres, forcément, il est imparfait. Si je parle de moi, à certains moments, il m'arrive d'être dans la lune, d'être fatigué, d'avoir sommeil, ou simplement de ne pas vraiment entendu, ou d'être à côté de la plaque. Bon. Donc, je suis dans mon monde et puis je ne suis pas dans la relation. Et inversement de l'autre. C'est obligé, on n'est pas parfait. Comme toute chose en ce monde, on n'est pas parfait. Donc, cet amour absolu, il reste absolu. Mais ici, l'amour ne peut être que relatif. À certains moments, il y a des grands moments de rencontre et d'ouverture, oui. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va se refermer. Donc, c'est un va-et-vient. Alors, toute la difficulté est de vouloir l'absolu alors qu'on est dans un monde relatif. Voilà. Jusque-là, avec les religions monothéistes, il était dit que l'amour absolu, il était dans le divin. Donc on aspirait au divin. Donc il y avait une idée que ce n'était pas dans ce monde-là qu'on trouverait. Simplement que le monde a évolué avec une perte de l'idée de la transcendance. Il y a des bonnes choses qui se sont passées, c'est-à-dire les avancées des droits de l'homme. Et donc, peut-être, l'homme est devenu un peu plus « sacré », entre guillemets, c'est-à-dire, en tout cas, sur le plan des lois, sur le plan des avancées de la démocratie, on a plus l'idée qu'il a des droits. Ça, évidemment, une très bonne avancée. Mais en même temps, ça peut faire venir le leurre que s'il a des droits, ben, il a droit à tout. Il n'a pas, ne pense pas trop aux devoirs. Mais il a droit à tout, et vous voyez comment, avec les progrès de la technologie, on peut s'enferrer dans des illusions que, eh bien, on va répondre à tous nos besoins. Et ça donne une mentalité qui fait que pour un rien, on va crier au scandale, ou on va être toujours dans la plainte. Alors, je suis très étonnée, parce que j'emmène des gens au désert, pour différentes raisons, parce que le désert nous lave, vraiment, ça nous conduit à se défaire de beaucoup de choses, mais aussi parce qu'on rencontre un peuple qui est tout à fait autre, qui ne prend pas les choses du tout comme nous. Bon, en l'occurrence, c'est chez les Mauritaniens, avec leurs défauts, leur culture qu'on ne supporterait pas, ça c'est évident, et puis qu'on n'a pas à calquer, sûrement pas. Mais par contre, eh bien, ils subissent des choses très difficiles sur le plan ne serait-ce que matériel, physique. Alors là, oui, vraiment. Et d'amener des gens, justement, dans ces conditions-là, et voir comment ces Mauritaniens réagissent, c'est une très bonne leçon pour nous. On est tellement gâtés. Bon. Bien sûr, on sait bien qu'il y a des pauvres aussi chez nous, mais quand même, dans la moyenne, on est tellement gâtés chez nous sur le plan, au moins matériel, qu'il faut aller voir ces peuples-là, comment ils galèrent, et que finalement, ils montrent plus de bonheur que nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils montrent plus de bonheur que nous? Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que vraiment tout marche. Ils savent depuis tout petit que ça ne marche pas bien. Et qu'il faut faire avec. C'est une très très bonne leçon pour nous. Et des fois, je suis vraiment, des fois encore même, pourtant ça fait plusieurs années que j'y vais, je suis encore des fois étonnée, parce que je dis, bon, dans des projets, peut-être à l'année prochaine, ou s'il se passe ça, et c'est Inch'Allah. Et moi, je me rends compte encore, quand je les entends, c'est que j'ai l'idée, ben oui, ça va se faire, parce que si j'ai un désir, ça va pouvoir se réaliser, que c'est tout de suite Inch'Allah, on va voir. Oui, on veut bien, mais, alors on peut dire, Inch'Allah, c'est suivant ce que Dieu veut, mais on peut dire aussi suivant ce que le destin nous réserve, comme on veut, mais qu'il y a une part d'inconnu qui est là, fortement au cœur de notre vie, et qu'il ne faut pas l'oublier. Alors que dans notre société, on a une façon de tomber dans une toute-puissance où tout nous est dit et qu'on oublie. On oublie ce manque crucial qui est là. Or, ce manque crucial, les psychanalystes, ils en parlent du manque ontologique qui est au cœur de notre être, qu'on ne sera jamais comblé parce que l'absolu n'est pas ici sur Terre, il est très important parce que c'est ça qui nous amène au désir. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du bouquin Jacqueline Kellen, Le désir. Parce que le désir, évidemment, puisqu'on n'est pas comblé, on désire toujours. Et c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est ça qui fait qu'on ne va pas s'arrêter, qu'on va toujours marcher. Parce que j'ai peut-être connu des grandes expériences d'ouverture à la beauté de la vie, à la beauté de l'amour. Et puis forcément, comme la vie est toujours en mouvement, ça va changer, ça va se refermer. Et je vais souffrir de ne plus ressentir ça. Donc je vais essayer de le chercher de nouveau. Et ça me met en chemin pour un grandissement de ma conscience. Donc ça nous met en quête vers l'essence de l'amour, la source de l'amour. Et ça nous amène carrément, il faut dire un grand mot, mais c'est vrai, à la mystique. Donc quand on dit acceptation de soi, oui, acceptation de moi, premier point, mais pas pour une tyrannie de moi, pas pour que je devienne despote. Acceptation de moi, mais avec cette idée que de toute façon, là, il y a une limite, et mais c'est dans cette limite-là que le désir va pouvoir émerger. Et je rappelle que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça renvoie à une autre invitation qui est avant, qui est « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. » Donc,
c'est dans notre prière du schéma Israël tous les jours.
Trois
fois par jour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir.
Alors, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'absolu, on peut appeler la vie comme on veut, mais qu'il y a une autre dimension, et que l'amour relatif de nous entre êtres humains est en rapport avec un amour absolu, qui est dans notre registre. Je terminerai, parce que là, j'ai parlé des musulmans avec les Mauritaniens. Je vais terminer par une parole d'un musulman, d'un soufi, Rumi. Je peux renoncer au désir de toute chose, vous voyez, il y a des prises là. Autant si je m'accepte moi-même, je me touche, je me rends compte, je me prends. Et puis, oui, mais en même temps, pas pour que je sois despote. Donc il y a une déprise là. Donc, je peux renoncer au désir de toute chose, sauf à celui qui est l'âme de mon âme. Voilà. Merci de votre attention.
Samuel.
Je vous remercie d'avoir parlé dans le travail. À ce propos, ça a déclenché en moi un déclic qui est pour vous dire qu'en hébreu, le mot entrail s'appelle rahamim. Et c'est le même mot qui signifie miséricorde.
Ah, oui.
Dans ma communauté, j'ai connu beaucoup de gens qui avec un prénom, comme tout le monde a un prénom.
Uh-huh.
Et puis, lorsqu'ils ont subi une très grave maladie et qu'ils en sont sortis, eh bien, on avait l'habitude d'ajouter à leur prénom le prénom Rahamim.
Mm-hmm. Ouais.
Alors, une autre chose, je reviens sur le mot Ve'ahavta et Re'aecha Kamocha. Re'aecha, je vous ai dit, ça peut vouloir dire ami. Et puis j'ai retrouvé que dans le Cantique des Cantiques, on appelle la fiancée Ahoti, ma sœur, Yonati, ma colombe, Rayati, mon ami. C'est la même racine. Rayati, Re'aecha. Rayati, mon ami à moi, Re'aecha, ton ami à toi.
Merci.
Je vous remercie.
Salut.
Je, par vos réflexions très enrichissantes, je pense aux conférences de Yvan Alain, Marc-Raphaël Guedj, et comme vous, il nous parlait du danger de l'absolutisation. Et il nous disait que quand on est dans un processus d'absolutisation des valeurs, c'est une forme d'idolâtrie.
Absolument.
Et donc, l'absolutisation de l'amour, l'amour absolu, c'est ça l'idolâtrie.
Oui. Tout à fait.
Et donc, je vous remercie parce que ça confirme un peu ce que nous mettons en garde Marc-Raphaël Guedj, cette tendance, on a toujours tendance, tout de suite, dans nos relations, comme dans notre quête, à vouloir tout de suite absolutiser les choses. Et il nous a fait une référence aussi sur par rapport à la cabale. Il disait ce qui est important, c'est que toutes ces belles valeurs s'harmonisent, elles sont en médiation les unes par rapport aux autres. Par exemple, l'amour va se mesurer avec la justice. Pour éviter l'absolutisation de la justice comme l'absolutisation de l'amour. Mais l'amour va véritablement s'épanouir parce qu'il garde un lien, il est en relation avec la justice. Et dans un réseau cabalistique, il faut que toutes ces valeurs soient liées les unes aux autres. Une sorte d'interdépendance entre la rigueur, la justice, l'amour, la prudence, la modération, la tempérance. Toutes ces valeurs se communiquent les unes par rapport aux autres. Et à ce moment-là, on sort vraiment de toutes ces idées.
Oui, je suis complètement d'accord. Et ça me parle bien. Parce que moi, dans ma formation, j'ai une formation en partie jungienne, et on parle beaucoup de la tension des opposés, c'est-à-dire de tenir les choses ensemble. Et effectivement, pour qu'il y ait véritable amour, il faut qu'il y ait de la justice, c'est-à-dire que la question des limites, des droits et des devoirs est là. Et j'en ai parlé, alors je n'ai pas parlé de loi, je n'ai pas parlé de justice, mais c'était ça dont il était question. C'est-à-dire que les choses soient justes, il y a des limites. Il y a des limites, on n'est pas dans la toute-puissance. Voilà. Et donc, l'amour véritable ne peut exister effectivement que s'il y a ces notions-là à côté.
Le même grand rabbin nous dit et nous répète souvent que lorsqu'on dit qu'on aime sa fiancée, qu'on aime sa femme, c'est qu'en réalité on s'aime soi.
Il va au droit chemin. Il va direct.
C'est tout à fait vrai.
Je crois que madame, vous vouliez poser ici. Et que c'est de nouveau au travers d'une rencontre, c'est-à-dire que quelque chose pourra naître au niveau des entrailles, mais en tout cas pourra naître par des mots qui sont corps quelque part. Parce qu'au travers de cette rencontre, que quelque chose de beau pourra être identifié et quelque chose qui peut-être n'aura pas un grand chose. Voilà.
tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de cheminer. La rencontre, elle est partout. Enfin, à partir du moment où on s'ouvre, elle est rencontre partout. Mais effectivement, pour certaines personnes, il y a besoin de faire ce cheminement avec quelqu'un, un accompagnant qui est psychothérapeute, psychanalyste, un accompagnant qui est formé à la relation et qui peut justement aider à ce que tout ce qui a été verrouillé se déverrouille pour que l'être puisse émerger. Et ça se fait dans la relation, bien sûr, dans une relation. C'est dans la relation. Voilà. Absolument, absolument. Oui, oui. Oui. Absolument, absolument. C'est une expérience qui se fait à partir de la relation, et c'est important qu'elle prenne sens, qu'elle soit nommée, qu'elle soit comprise, pour comme un peu à ce moment-là la mâcher, l'assimiler, l'intégrer, et que ça s'installe. C'est ça que vous voulez dire? D'accord.
Il y a un exemple très flagrant ici. À chaque réunion d'amitié judéo-chrétienne, on a le mot amitié. On a deux façons d'aller vers Dieu, juif et chrétien. Et lorsque dans des toutes premières rencontres où l'on ne se connaît pas, il y a une retenue, forcément, il y a parfois des cœurs très fermés, il y a les peurs qui ferment les cœurs. Et là, l'objectif, c'est de se connaître. Et il y a cette capacité, avec la rencontre de divers visages, et dans le visage de chacun, dit Lévinas, il y a la présence du divin, il est sûr qu'il se passe quelque chose en soi. Moi, je peux vous dire que j'avais dans ma jeunesse très peur du monde chrétien, que je ne connaissais pratiquement pas. Puis la vie m'a menée à, jusqu'au moment où dans une violence avec quelqu'un, qui était adulte, j'étais adulte, il a fallu que je me dise, il faut faire quelque chose, parce que la nécessité d'approfondir la rencontre, je l'ai faite avec la personne qui a été violente, mais elle n'a pas tellement eu envie d'entendre, j'ai pensé qu'il fallait peut-être le faire autrement. Et j'ai été entendue moi-même, je crois, vraiment très haut, et peut-être pas si haut que cela, parce que très vite, j'ai été amenée à connaître des personnes qui avaient fondé, il y a 23 ans, 24 ans, l'amitié judéo-chrétienne. Et parce que c'était un rapport d'antisémitisme que j'avais vécu, par une chrétienne catholique fervente, mais qui m'a sorti des horreurs sur les juifs. Sauf en me disant que moi, je n'étais pas pareille, je la connaissais, elle me connaissait. C'est la chose la plus terrible. Et vous dites cela bien, c'est la rencontre avec l'autre qui a fait que mon cœur a changé, s'est ouvert, j'ai connu. Moi, j'avais peur de Jésus. Je me demandais, de lui partait plein de choses. En fait, ce n'est pas ça du tout. Et puis, les gens qui viennent là, pareil, par le monde juif, ils apprennent à connaître qui nous sommes. Ils n'ont pas ces personnes qu'on a pu décrire comme des... Je ne dirais même pas les mots. Donc, c'est très important. Et c'est là que l'ouverture du cœur se fait. Et elle est forte parce que, oui, elle va aux entrailles. D'ailleurs, je me suis toujours dit que je ne m'appelais pas ventre pour rien. Parce que j'ai des patients qui viennent parce que je m'appelle ventre. Incroyable. Et j'en ai presque 3 dans le mois qui viennent parce que je m'appelle ventre. Merci, mon mari. Mais c'est la rencontre, c'est ça, c'est le cœur. Parce que c'est là que ça se passe. Et de toute façon, que ce soit dans le zen, la zen, le yoga, la sophrologie, etc., c'est là que ça se passe. Et ça se passe à ce niveau-là.
En hébreu,
oui,
sous-entendu, c'est les entrailles de la femme.
Ah oui, Eh oui, évidemment, qui est enfante, elle porte l'enfant. D'où la reconnaissance dans la tradition juive de la femme qui donne effectivement la religion à l'enfant, enfin la culture. Et, voilà.
On dit bien que tu as des entrailles de femme, il me semble. On dit que Dieu a des entrailles de femme.
Aussi, bien sûr.
D'ailleurs, c'est la découverte progressive qu'Israël fait de Dieu. Je crois que la première image qui sort de Dieu en Israël, c'est le mot époux. Parce qu'il fait alliance avec Israël. Et il est l'époux d'Israël. Et ça, c'est important. Si on ne porte pas de ça, on oublie cette alliance fondamentale de Dieu avec son peuple. Ensuite, il y a toute expérience que se fait entre l'époux et l'épouse. Alors, l'histoire d'Israël, c'est souvent l'infidélité de l'épouse, parce qu'il se tourne vers les idoles, vers d'autres dieux, et la fidélité constante de l'époux, qui l'accueille constamment. Alors, les prophètes vont essayer de remplir ce mot harcelant, en particulier le prophète Osée, qui vont dire, mais un époux qui reçoit son épouse qui s'en va une fois, deux fois, trois fois, ça va, mais 50 fois, c'est quand même quelque chose de plus grand. Et alors, on découvre à ce moment-là les entrailles de Dieu, la miséricorde, qui veut dire Ram, Ramin, c'est ça. Et la miséricorde de Dieu, ça veut dire que Dieu est mère. Voilà. Dieu est mère et il est découvert comme mère avant d'être découvert comme père. Parce que en Israël, on a appelé Dieu père très tard. On n'appelait pas Dieu père, on appelait le Dieu de nos pères.
Nos pères, toujours.
Voilà, c'est important. Parce que dans les autres peuples, il y avait les pères du peuple, mais qui étaient les pères biologiques du peuple. Tandis que les rapports de Dieu avec Israël, ce n'est pas des rapports de paternité biologique, c'est un rapport d'alliance. Pour cela qu'il y a le mot époux qui est très important. Et puis ensuite, ils vont découvrir Dieu. Dans le prophète Isaïe, c'est clair, quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas, souviens-toi, je t'ai inscrit sur la paume de ma main. C'est-à-dire que tu fais partie de mon être, tu fais partie de ma chair. Puis ensuite, c'est la troisième étape qui va se faire en exil. Comment ils vont appeler Dieu Père? Enfin, vous êtes tout court, plus que moi. C'est qu'en exil, quand le peuple va en exil, bien, il réagit parfois comme les autres peuples. Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Pourquoi, etc. Ils étaient contre les Philistins, ils ont sorti l'arche d'alliance. Ils vont dire, le Dieu qui est avec nous, il est plus puissant que Dieu d'en face. Et puis l'arche d'alliance est emportée. Puis ensuite, on détruit le temple. Alors Dieu... Alors à ce moment-là, c'est lorsque le peuple rentre en lui-même, par les prophètes qui les aiment, qu'il s'aperçoit qu'il ne faut pas remettre sur Dieu tous les événements, mais qu'il faut se convertir soi-même parce qu'on est responsable. Et d'ailleurs, dans Isaïe, la première phrase qui ressort, c'est « Convertis-nous, Dieu, notre Père ». Et le mot est lâché à ce moment-là. C'est-à-dire que le mot « Père » est toujours lié à la responsabilité. Non pas comme source biologique de ma vie, mais comme source de ma liberté, de ma responsabilité et de ma liberté par notre corps. Alors c'est intéressant de voir les trois choses, si on résume l'histoire, d'époux on passe à mère, et de mère on passe à père.
Mon époux, vous avez tellement raison, que c'est le motif pour lequel le cantique des cantiques a été canonisé. C'est la raison, parce qu'il apparaît à toute personne comme un mortel, comme érotique. Trop de sentiments, beaucoup d'expressions d'amour. Mais en réalité, c'est parce que les sages, ils l'ont interprété comme étant un hymne à Dieu. À Dieu, l'époux. C'est lui qui représente le fiancé. et qu'à un moment donné, la fiancée se lève parce qu'il a frappé à la porte et qu'elle a été refusée d'abord, mais je suis déjà dans mon lit, j'ai déjà mis ma robe de nuit, etc. Et puis, quand même, elle se lève, elle va, elle ouvre et il est
trop tard.
Elle lui court derrière à travers. Vous ne l'avez pas vu.
C'est important, le cantique des cantiques, il est même fondamental. Hein, parce que on risque de voir le mot époux d'une manière symbolique, comme cela. Hein, tandis qu'il s'agit bien d'un époux qui est amoureux de son peuple. Un époux qui n'est pas amoureux, c'est pas un époux. Et Dieu est amoureux profondément de son peuple. Ça, il la considère comme sa bien-aimée. Hein. Là, c'est...
Il aime tellement son peuple, ou en tout cas il aime sa création, qu'il s'est voilé. Là, on retrouve bien aussi l'idée de laisser la place à l'autre, ce qui fait qu'effectivement, dans le couple, c'est pas laisser la place complètement à l'autre, mais c'est de lui permettre d'être, et que à ce moment-là, cette façon d'être, c'est aussi un petit peu de se retirer. Parce que s'il y a trop de puissance ou de pression, l'autre ne peut pas exister. Et je crois que le premier exemple, c'est le retrait de Dieu, ne serait-ce qu'à Shabbat. On dit, nous, il s'est retiré et il a laissé effectivement la place à l'homme pour œuvrer. Il lui a donné sa liberté en lui laissant cette place.
Un des noms de Dieu, c'est Shaddai.
C'est Shaddai.
C'est celui qui s'est arrêté.
Oui, ça suffit.
Celui qui sait dire,
ça suffit. Voilà. Je ne ferai plus la phrase en entier comme ça. Sans... Oui, vous voulez dire ? Pardon. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Oui.
Assez.
Moi, je voulais vous remercier aussi pour ce que vous nous avez offert ce soir, parce que vous l'avez dit avec une telle justesse que ça nous a ouvert, enfin en tout cas, je parle pour moi, mais manifestement quand on voit les visages, c'est le cas, les visages sont ouverts, réjouis, vous avez une telle justesse dans vos propos que vous avez réussi à nous ouvrir le cœur. Point virgule. Je ne veux pas dire mais et puis, il y a une partie de moi qui devait être verrouillée, parce que j'ai été gênée, mais ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est sûrement moi qui est en cause, j'ai été gênée par une de vos phrases tout au début. Donc sans doute que je l'ai mal comprise, mais je souhaiterais que vous reveniez dessus, parce qu'elle m'a...
D'accord.
Vous avez dit, on ne peut pas construire l'amour. Donc après, vous avez dit, le cœur doit s'ouvrir. Mais vous n'êtes pas vraiment... Vous êtes revenu dessus encore un peu plus tard, en répétant, on ne peut pas construire l'amour, je dirais, mais peut-être abusivement, parce que peut-être que j'ai mal écouté, mal entendu, comme s'il y avait un point. Et ça me gêne, parce que de dire... Alors, c'est mon ressenti est peut-être complètement erroné. Mais de dire comme ça me gêne. Si vous aviez dit, on ne peut pas construire l'amour, on ne peut pas se mettre sur le chantier de construction de l'amour seul, sans, au départ, prendre au moins deux précautions. C'est-à-dire, d'abord se relier à quelque chose ou à quelqu'un qui nous dépasse. Je dis quelque chose pour celles et ceux qui parmi nous pourraient ne pas être croyants en un Dieu, mais en une transcendance, pour nous qui sommes croyants en la transcendance divine, donc première condition, et puis deuxième condition, on ne peut pas construire l'amour sans se préoccuper de ce que l'autre souhaite aussi. C'est-à-dire on ne peut pas construire seul. Mais dire seulement on ne peut pas construire l'amour, ça me gêne. Voilà.
Oui, j'entends à travers ce que vous dites d'explication par rapport à votre réaction. Quand je dis on ne peut pas construire l'amour, c'était essentiellement pour dire ça ne peut pas être quelque chose qui est décidé volontairement dans notre tête. J'étais à ce moment-là dans la partie vouloir bien faire. qu'on peut, on peut avoir une inspiration, puisqu'on est invité à l'amour, une inspiration à y répondre, je dirais ça, et alors on se met en chemin, mais on ne le construit pas. C'est-à-dire, on se met en chemin, et à ce moment-là, il va se passer effectivement des rencontres qui font qu'un phénomène va se passer, qui peut-être va commencer à nous ouvrir le cœur. Mais je veux dire que ce n'est pas je qui fais, c'est les événements, la relation, la situation de relation qui va conduire quelque chose et amener un processus.
Qui va construire.
Voilà. Mmh. Pour ça, c'est pas, voilà, c'est dans ces deux sens-là.
Je pense que c'est important de dire, parce que ce que je veux dire, c'est, imaginons que, mais ça, je sais très bien que pour vous, ça n'est qu'une question de formulation, et pour moi, sûrement, une mauvaise appréhension.
Non, mais vous aimez, c'est très bien que vous fassiez préciser.
Voilà, je veux dire, parce que avoir le cœur ouvert, c'est nécessaire, c'est une condition préalable. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Parce que si on se place par rapport à des événements extrêmement, par rapport à des événements tragiques, avoir le cœur ouvert, c'est important. Et si on s'arrête là, rien ne se passe. Habituellement, on a quelqu'un parmi nous qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Jeanne Brousse, qui est une juste, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le choix de laisser son cœur s'ouvrir, mais pas point virgule seulement. C'est-à-dire qu'elle, parce que son cœur est ouvert, elle s'est ouverte aux autres et elle a pris des risques terribles pour sa vie. Et si on pense au pasteur et à sa femme, je crois que c'est André Trocmé, je ne suis pas sûr du prénom, du Chambon-sur-Lignon, son cœur s'est ouvert, mais il n'est pas limité à l'ouverture du cœur. Il a fait en sorte que il protège les autres. Et il y a une construction qui se fait. Mais on n'est pas en désaccord. Je voulais simplement
Ce que je veux dire, c'est que quand le cœur est ouvert, à ce moment-là, il y a un élan qui parcourt. Et ça donne envie de faire des choses. Donc, il avait le cœur ouvert, et c'est ça qui lui a permis d'avoir envie d'être touché par ce qui se passait, et d'avoir envie à ce moment-là. Il ne pouvait pas rester insensible, donc il était obligé presque d'agir. Voilà. Tellement ça poussait à l'intérieur dans son cœur.
On est bien d'accord.
D'accord. Tout à fait. C'est finalement l'autre qui peut le dire le mieux.
Voilà.
Je suis complètement d'accord.
Oui, moi j'ai été touchée par quelque chose, je ne sais pas tellement parler, ce qui a été dit jusqu'à présent, ce que vous avez dit à propos de la nécessité de se rappeler des bienfaits que l'on a reçus. Et que ça, c'était une expérience que l'on vivait à chaque fois qu'on se remémorait ce bienfait. Revivait cette expérience, que ça nous élargissait le cœur.
Oui.
Et je me dis que quand on vit la Pâque, s'il y a la Pâque juive, la Pâque chrétienne, c'est ça qu'on fait en fait, c'est se remémorer les bienfaits que Dieu a fait pour nous et ce qui nous ouvre à lui. Une vision de ces rites qui ne sont pas que des rites, justement.
Et parce que c'est arrivé, ça pourra
encore arriver. Dans la Haggadah de Pessah, le récit qui dure plus loin dans la soirée, qui dure longtemps, parce qu'on est obligé de rappeler tout ce qui s'est passé, cette libération, eh bien, il y a un moment donné, comme un poème, que l'on lit et que les enfants adorent en général, c'est si tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as sortis d'Égypte et tu nous as fait traverser la mer Rouge, daïe-nous, ça suffit, ça vient encore du mot qui est la racine du chat daï, comme a dit monsieur, daï c'est assez. Ça aurait été suffisant. Mais encore, tu nous as donné le Shabbat. Tu nous as donné le Shabbat. D'ailleurs, nous. Ça suffit. Assez. Et
on enchaîne comme ça, et le, les enfants, chaque fois, à celui qui récite, je répète, Daïenou, et toute l'assemblée qui est présente va dire Daïenou, chaque fois, Daïenou, Daïenou. Donc les bienfaits, à propos des bienfaits dont vous avez parlé.
Oui. Une réflexion, ça, qui va avec ce que vous avez dit, bien sûr.
Parce que, à partir du moment où, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où on contacte cet enfant blessé, cet enfant, il a envie aussi d'être en colère, des fois de casser tout, tellement, des fois, il y a eu une souffrance tellement grande. Donc, d'aimer même ça, même nos côtés destructeurs. Et puis, sans aller jusqu'à nos côtés destructeurs, simplement nos côtés où des fois on est fatigué, inattentif, toute notre humanité, nos limites, on parlait de droit, de justice, nos limites, de s'accepter comme ça. Et alors on peut mieux aussi les aimer chez l'autre aussi, parce qu'on peut comprendre qu'il est pris dans des choses très similaires. Alors, il faut se tourner vers Françoise Dolto qui a très bien parlé de ça. Il y a le schéma corporel, et l'image inconsciente du corps. Il y a le corps biologique, celui qui est qu'on peut regarder anatomiquement. Hein. Et puis il y a vraiment l'image inconsciente du corps, c'est-à-dire ce qui s'est construit à travers justement la relation, à travers le vécu de l'enfant, et qui à ce moment-là repose sur un monde émotionnel, sur un monde affectif, sur toute la construction psychique qui s'est élaborée dans la relation avec les questions de rencontre et de séparation. Tout ça, ça anime notre corps, ça anime notre émotionnel, ça anime aussi nos affects, c'est relié complètement à cette expérience de base et qui est dans le corps, dans l'enfant qui pète, dans l'enfant aussi après qui va sur le pot, tout ça. Et tout ça, ça se fait dans la relation, vous voyez. Donc c'est ce corps-là dont il est question. Et quand on dit, par exemple, que la psychanalyse, comment elle ne s'occupe pas du corps, c'est pas vrai. Parce que si on fait attention à ce que la parole qui sorte là soit vraiment une parole du corps, pas juste la tête qui parle, c'est vraiment une parole qui est reliée aux émotions, à l'affect, etc. Le corps est là, complètement. C'est ce corps-là dont il est question.
Et d'ailleurs que la mémoire, une partie de la mémoire est dans le corps, puisque justement il exprime, même par les maladies psychosomatiques, c'est une expression de l'âme aussi, d'une souffrance. Je dirais même jusque dans le ventre de la maman, puisqu'il y a un ressenti, le corps.
Et dans le langage courant, on dit, j'en ai plein le dos. On voit bien comment tout ça, c'est en relation avec le corps qu'on est. On a plein le dos, je ne sais plus, il y a plein d'expressions comme ça. Ça me donne des boutons, il y en a plein.
Toute la symbolique du corps humain, que d'ailleurs Annick de Sousnel, pour ceux qui la connaissent, a très bien décrit, a très bien écrit, mais même à travers l'enseignement kabbalistique et à travers l'arbre des séphirotes, où on retrouve les qualités, où on retrouve le corps, on retrouve la façon d'exprimer notre corps, mais dans la fête ou dans la relation à l'autre, etc. C'est une grande complexité et c'est extrêmement intéressant, extrêmement passionnant.
Je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, là, et on retrouve encore, non, on se l'était dit hier soir en rentrant de Genève, de la conférence du grand rabbin, qu'on retrouverait certainement des résonances, on en retrouvait dans ce que vous avez dit tout à l'heure, oui, parce que le grand rabbin nous disait que bien sûr, il faut toujours s'efforcer de transmuter le mal en bien, mais qu'il y a un texte d'un maître qui dit qu'on doit aimer Dieu avec ses deux penchants, le bon, mais aussi le mauvais. Le mauvais, il est là. Alors bien sûr qu'on va essayer de le réduire, mais il restera toujours une part d'ombre, et on doit aimer Dieu aussi, aimer Dieu et l'autre, le prochain, avec, en tenant compte,
Oui. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Voilà. Ça, je pense, pour le monde chrétien, est-ce que ce n'est pas difficile d'entendre le mal par rapport à ce que Dieu peut faire, ou est-ce que...
Alors, ce que disait ce que disait leur père, ce que disait leur rabbin, le grand rabbin, Martin, il disait, on doit aimer Dieu avec le bien et le mal, mais le nôtre. Le nôtre.
Voilà.
Et bien entendu, voilà. Que dans cette conception-là, c'est pour ça Dieu, que... Dieu est unique et il est tout et on ne peut pas imaginer qu'il soit mauvais. Alors, d'où vient le mal, bah, le mal, il est en nous parce que c'est le prix de notre liberté et donc on doit essayer de le réduire, cette partie du mal qui est en nous, mais elle fait partie de nous et on doit aimer Dieu tel qu'on est. Ça rejoint ce que nous disait Mme Romanoff tout à l'heure. Il faut accepter nos zones d'ombre et essayer de nous présenter devant notre Créateur. Comme ça, et le remercier parce qu'il n'y a pas que du mauvais.
C'est vrai que personnellement, j'ai toujours eu du mal et je n'arriverai, je pense jamais, à me faire l'idée qu'il puisse y avoir du mal émanant de Dieu. Alors certes, Ésaïe ou Isaïe, les protestants ont l'habitude de dire Ésaïe, 45:7 dit Dieu a créé le mal. Alors, c'est écrit.
C'est écrit.
C'est vrai.
Le bien, le mal, le bon, le...
J'ai encore regardé, parce que...
La vie, la mort...
J'arrive pas à... Mais, moi, j'arrive pas, hein, c'est vrai, j'arrive pas.
Les rabbins ont changé une prière, parce qu'ils avaient repris ce texte, et donc ils bénissent le saint qui a créé le jour, qui a créé la nuit, qui a créé le bien et toute chose.
Dans la tradition.
Mais c'est très bien dit. Mais... Sur le coup, on dit c'est une pirouette, mais non, c'est notre liberté.
Il est quand même dit dans notre prière, je t'ai donné la vie et le bien, je t'ai donné la mort et le mal, choisis la vie et tu vivras, etc.
Deutéronome.
Et c'est dit quand même. Alors, je crois que madame voulait dire quelque chose.
J'ai mis devant toi.
Choisis, j'ai mis devant toi. Exactement. C'est j'ai mis devant toi et c'est la liberté du choix.
Même pas j'ai mis, en fait, c'est je mets.
Ou je mets même.
Je le mets en permanence.
Oui. Ah ben ça, toujours. Hein.
Deutéronome 30, 19.
Non. C'est la vie et le bien.
La bénédiction et la malédiction.
Le bien et le mal. Le mal et la mort, ou la mort et le mal. Alors, je vais vous le trouver.
C'est Deutéronome 30, 19.
Attends, moi, je voudrais dans la prière, si j'arrive, c'est tellement énorme.
Alors, on va savoir.
Oui.
On va le savoir. Mais Norbert, m'excuse, ce n'est ni Isaïe, ni Ésaïe. C'est très difficile à prononcer.
c'est Yesharia.
Non, mais je suis désolé, Samuel. Moi, je ne suis pas juif, je suis protestant, et pour les protestants, c'est Ésaïe.
Je suis désolé.
Et je ne sais pas, Shmuel, c'est Samuel.
Le bien et le mal.
Voilà. Donc, je vous le lis dans la version de Jérusalem. Alors, la version de Jérusalem, on est dit de. Je la prends là parce
voilà.
que. Je la prends là parce que c'est pas petit. Mais c'est vrai qu'on évite de la prendre ici parce que certains termes choquent nos amis juifs. Parce que, notamment le tétragramme, je ne peux pas revenir dessus. Je l'ai parce que c'est pratique. Donc je vous lis 30-19. Je suis obligé de me reculer, j'espère que les bras sont assez longs. 30-19. Je prends au jour. Alors là, c'est une version que je connais. C'est vrai que moi, d'habitude, je prends la Tob. Alors, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez.
Alors, moi j'ai la traduction, donc dans notre livre, dans le Sidour, le livre de prière, donc il y a le texte en hébreu, qui est dit, et je vais vous dire la traduction qui est faite par le rabbin dans le texte, le rabbin Garay. Cette loi que je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, ira nous l'acquérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises qui traversera pour nous l'océan, ira nous l'acquérir, nous la fera entendre afin que nous l'observions. Non, elle est tout près de toi, tu l'as dans la bouche, tu l'as dans ton cœur afin de l'observer. J'en atteste en ce jour le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le mal. Point. Aime l'Éternel ton Dieu, c'est toujours important ce qui est placé avant, ce qui est placé après. Aime l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies, garde ses commandements, ses lois et ses statuts, et tu vivras et tu seras béni sur la terre dont tu hériteras. Alors, il y a toujours les traductions, là c'est vraiment ce qui est donné dans la prière que nous disons parce que ça fait partie du schéma Israël dont nous parlions tout à l'heure et qui se dit tous les jours, trois fois par jour, et c'est encore, hein, une autre fois. Madame voulait dire quelque chose.
Donc, elle s'approcha concernant depuis la rentrée, la fille vient. Dans notre tradition chrétienne, on nous demande d'aimer plus difficilement, c'est-à-dire d'aimer même son ennemi, ce qui n'est pas simple. Et moi, c'est vrai que, en fait, la question, je ne la connais pas. Entre aimer son ennemi, et basculer dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, à Léon, la...
C'est intéressant ça.
Rappelez-moi le syndrome de Stockholm.
Ceux qui font, dans les attentats, ceux qui font, comment dire, prise d'otage. Donc les gens vont être, vont être prisonniers de l'homme ou de la femme qui prend en otage. Et il va y avoir un lien qui va se faire au fur et à mesure du temps avec le preneur d'otage. Et celui qui est pris en otage va se mettre finalement à aimer d'une certaine façon. Celui qui a pris, enfin, d'une certaine façon,
ça,
on appelle ça le syndrome de Stockholm.
C'est peut-être un grand mot, René.
Oui.
Mais,
voilà. Il se passe quelque chose. Il y a un transfert, peut-être. De toute façon, peut-être parce qu'il a gardé la vie.
Oui.
Peut-être parce qu'il est en vie.
Ça m'amène à plusieurs choses. Dans les choses qui ont été dites, déjà, vous voyez bien, aime ton ennemi. La notion que l'autre, il est pris dans ses entraves, dans ses difficultés, dans son cœur fermé, comme nous, on peut l'être aussi à certains moments, peut-être pas toujours dans la même mesure, mais il est pris aussi dans ses difficultés, c'est ça, parce qu'on peut comprendre ça, qu'on peut l'aimer, d'accord? Dans la mesure où on s'accepte avec ses propres insuffisances, on peut mieux accepter l'autre dans ses propres insuffisances, même si des fois, ce qu'elle donne, c'est terrible, mais on sait d'où ça vient à la racine. Et ça peut aider à garder le cœur un temps soit peu ouvert. Ça, c'est une chose. par rapport au syndrome de Stockholm, je ne me rappelais plus, mais en tout cas, ça ramène à des choses que j'ai regardées, surtout dans Maltraitance au travail, parce que pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les positions entre dominant et dominé. Et j'ai écouté notamment une femme qui est psychanalyste et qui travaille avec des gens qui ont été torturés. Et ce qui se passe, ce qui peut se passer, c'est-à-dire que dans des conditions comme ça, très difficiles, parce que je pense dans le syndrome de Stockholm, ça existe aussi, il y a une perte d'identité terrible, vu la perte des repères, vu l'état de choc, etc. Et il n'y a personne vers qui se tourner pour essayer de trouver un peu de repère. Donc le seul vers lequel on peut se tourner, c'est le dominant. Et à ce moment-là, il y a des mécanismes très très précoces qui remontent à la toute petite enfance, je dirais au nourrisson, qui est de s'adapter. On a besoin de s'adapter simplement pour se sentir exister au regard de l'autre. Et que du coup, l'autre il peut être terrible, que tant pis, on va quand même s'adapter à lui. Je veux dire, on le fait, ce n'est pas nous consciemment qui le faisons, c'est des mécanismes psychiques inconscients qui font ça en nous et qui nous dépassent complètement et qui viennent vraiment des premiers jours de la vie. On voit des enfants, les enfants qui ont été maltraités très difficilement, comment ils défendent leurs parents, parce qu'ils en ont besoin de leurs parents. On a besoin, on est tellement dans la dépendance, on n'existe pas sans les parents, donc il y a un mécanisme pour se mettre en lien, quelle que soit l'horreur de ce parent-là, en lien avec lui. C'est la même chose qui se passe dans des périodes justement où tous les repères sautent et on est dans un grand, grand désarroi. À ce moment-là, il faut se raccrocher à n'importe quoi pour pouvoir survivre. Et c'est très, très difficile parce que des gens qui ont subi des choses comme ça ont été amenés, évidemment, à aimer leur geôlier, etc. Et après, quand ils reviennent à un état, je dirais, plus normal, plus, voilà, ils s'en veulent terriblement, terriblement. Et en même temps, c'est notre humanité aussi, c'est nos limites. C'est que si on subit des choses, on ne sait pas trop comment on va réagir. Hein. Il y a des mécanismes très précoces qui se mettent en route à ce moment-là. Donc ça peut expliquer. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Moi, je pense par rapport à votre question, là, c'est que, moi, je le vis comme ça, c'est peut-être pas juste du tout, mais dans le « aime ton ennemi », ça n'est pas faire que l'ennemi devienne un ami, c'est-à-dire ne pas rentrer. Il y a trois, pour l'amour, il y a trois définitions. Une définition, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Eros, philia et agapé. Donc, on ne va pas rentrer, on ne nous demande pas de rentrer dans une relation philia, c'est-à-dire d'amitié, on ne va pas devenir ami, mais dans une relation d'agapé, où l'autre va être toujours considéré comme une personne, donc comme une, pour nous qui sommes croyants, enfin pour moi qui suis croyant, essayer de le considérer comme une créature de Dieu, et non pas le limiter à ce qu'il fait, à ce qu'il me fait. C'est-à-dire faire la différence entre ce qu'il fait et à ce qu'il est en tant que personne. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Très clair.
Comme on peut faire la différence entre quelqu'un qui a volé n'est pas forcément un voleur. On dit souvent ça. Quelqu'un qui a volé, il a volé, mais ça n'en fait pas un voleur une fois pour toutes. Ce n'est pas forcément facile à accepter quand on vient de se faire voler sa voiture, disons. Je voulais vous lire juste parce que c'est sûrement un des rares versets qui me pose problème. Alors, je ne connais pas très bien, je l'ai parce que c'est pratique, mais dans la version donc, de Jérusalem, ce fameux verset 7 du chapitre 45 d'Ésaïe, Isaïe, où je façonne, donc c'est Dieu, hein, je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi, Yahvé, qui fais tout cela.
Ah oui.
comment on peut être chrétien.
L'âme de la vie.
Bon, je fais une distinction, en fait, du point de vue, il y a une distinction Dieu de votre côté et Dieu de son côté. Donc, le Dieu qui a créé, le Dieu créateur qui a créé son Tchoum Tchoum, qui s'est retiré, c'est le Dieu de son côté, dont nous ne savons rien, dont nous ne pourrons jamais rien savoir. Mm-hmm. Et puis, tout ce qu'on peut lire de lui dans la Bible, c'est Dieu de notre côté. Voilà. Mm-hmm.
C'est l'homme qui a écrit.
Oui. Voilà. Eh oui.
Ça ne s'en vient pas forcément de son côté, ça ne s'en vient pas.
Toujours, oui, c'est mieux.
Et pas seulement, mais oui.
Et les commentaires, et les commentaires.
Et dans les commentaires, il y en a qui ont son cours, et chacun donne son avis. Donc je peux te donner la.
Le judaïsme, c'est l'interprétation du livre.
Est-ce que c'est toi qui as fondé
voilà. Eh oui.
On aurait sur cette question de comme un mystère qui d'une certaine façon, est-ce que c'est pas parfois à travers les épreuves que l'on comprend.
Bien sûr.
Donc on peut faire des mises en avant, on peut pas sauter l'obstacle. Ou bien on se cache un petit peu au-dessus, je te fatigue sur le mur, on vient en face derrière.
Je trouve que c'est important de dire que quand il y a quelque chose qui gêne, parce que sinon, on retombe dans ce que Marie-Romanence disait tout au début, à propos de la personne qui dit c'est pas grave. Donc c'est pas grave, je laisse de côté cette partie-là. Mais moi je dis, je laisse pas de côté cette partie-là, elle me pose problème.
On approfondit.
Moi, si j'ai bien compris hier soir, où j'ai pas relu, j'ai pas eu le temps de me réoccuper de ça. Mais on a parlé du bien et du mal, et on a parlé de l'obligation de grandir que Dieu propose dès Adam. À partir de l'instant où Adam fait, entre guillemets, le péché. Puisque cet arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il va découvrir. Alors que ça lui était interdit. Et comme même le rabbin Gage disait, mais finalement, Adam au départ... Adam, il était pur, il était sans risque d'aller vers le mal, et pourtant ça s'est fait. Et de dire que c'est cela qui permet cette façon de grandir à l'être humain par les épreuves dans lesquelles il se met, il est mis. C'est une permanence pour grandir. Et peut-être pour revenir, disait-il, à cette étape, la première, qui était le bien, qui était
l'état
de pureté du premier homme.
Lui, le grand rabbin, la faute, il l'a définie de cette manière-là.
Il dit,
la faute, elle a consisté à, pour Adam, à mélanger le bien,
le bien et le mal.
Il l'a mélangé. Et tout le travail qu'on a à faire tout au long de la vie...
Attends, on va expliquer. Comment il les a mélangés? Pour la première fois, le mal et le bien étaient à l'intérieur de lui.
Voilà.
Le premier Adam à Kadmon, il était créé par Dieu, il était bon.
Bon. Voilà.
Et le serpent, le mal, enfin, l'image qu'on a du mal, était extérieure à lui, et il s'adressait d'ailleurs en se disant « tu ».
Voilà.
Tandis que par le mal qui est arrivé... Le mal est rentré à l'intérieur de l'homme. Maintenant, quand l'homme dit « j'ai envie, je convoite la femme de mon voisin, j'ai envie de voler un petit peu ce qu'on va pas me prendre », il dit « je ». Le mal est devenu dedans. Par contre, la conscience est devenue cette fois-ci dehors.
Voilà.
Il y a eu là, au moment où il se dit « je n'ai pas beaucoup de riz, je peux voler », quelqu'un dans son cœur, dans sa tête, il dit « c'est pas ça ». Alors, si tu te fais prendre, alors là, tu te rends compte un peu de ta réputation, etc. Donc, il y a eu une inversion, mais en attendant, depuis Adam, le mal et le bien sont mélangés à l'intérieur de nous. Mais il faut que je vous
tout le travail consiste à essayer de le...
Discerner, vous avez
en fait. Mais en sachant qu'il y en a toujours une part qui sera...
Alors, puisque j'ai pris la parole, je voudrais revenir sur les épreuves. On est d'accord que ça peut faire grandir, mais je pense qu'il n'y a que ceux qui ont franchi une épreuve et qui s'en sont sortis grandis qui ont le droit de dire « l'épreuve fait grandir ».
Oui.
Parce que quand j'ai vu des gens qui ont été brisés par des épreuves, je me vois mal aller leur dire « mais les épreuves, ça fait grandir ». Et ça, ça a été quand même une tradition chrétienne pendant longtemps. Hein. Des gens qui perdaient un enfant, on leur disait, mais vous savez, c'est, il est mieux leur disait, et puis ça va vous faire grandir. C'est pas possible. Alors il faut quand même faire bien attention à ce qu'on dit quand on dit que les proches sont fait grandir. Elles peuvent.
Oui. Elles peuvent. Voilà.
C'est d'ailleurs ce que
j'ai
dit. Ça va
ouais.
Un peu aussi ce qu'a fait la figure.
Oui, bien sûr. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu et qu'il faut...
Je crois que vous vouliez parler, Père Barthélemy.
Des choses,
je... Oui.
Quand on voit, donc, je parle la phrase que vous avez dite là, hein, le mal, le bonheur, etc. D'abord, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, qu'on voyait Dieu dans toute la vie.
Vous pouvez parler un peu plus
fort. Je pense que la partie des questions, elle ne sera pas. Parce que d'abord, le micro n'est pas tourné.
Je vais retourner.
Donc, il y a le mal dans la vie aussi. Hein. Israël a mis un certain temps pour découvrir que cette séparation du bien et du mal, et en même temps aussi, Dieu étant le créateur du monde et de l'homme et du monde, ben, il y a le mal aussi avec. Hein. Alors ça restait un peu ce mystère. Hein. Et là, vous avez certains passages de la Bible, même l'histoire de Job. Hein. Satan fait partie du conseil de Dieu. Hein. Je crois que là, on était, si vous voulez, dans cette idée que tout est mêlé. Hein, c'est ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose de profond là-dessus. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui n'a pas créé une vie à part, mais c'est la vie telle qu'elle est. C'est la vie dans toute sa complexité, mélange de bien et de mal, et ensuite on découvre que c'est Dieu nous appelle alors à aller vers le bien, c'est-à-dire vers lui. Voilà, c'est ça qui est signé. Alors je crois que là, nous lisons ça dans le contexte actuel, mais il faut lire ça dans toute l'évolution de la foi du croyant dans la vie en Israël. Et donc on découvre Dieu progressivement quoi, à travers la révélation de l'histoire. Et moi ça ne me gêne pas beaucoup parce que je sais qu'au cœur du mal de ce monde, Dieu est là aussi. Hein, voilà. Et qu'il travaille au cœur de ce monde. Hein, c'est ça. Et là on trouve dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Hein, le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire que... Il y a le bon grain qui est semé, puis ensuite il lui vient, il sème l'ivraie. Et les disciples, les serviteurs, quoi, disent il faut arracher l'ivraie. Et voilà que Dieu dit, Jésus dit non, c'est pas maintenant. Il faut attendre que la moisson arrive. Parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risquez d'arracher le bon grain aussi. C'est ça, hein. C'est-à-dire, on est dans un monde qui n'est pas achevé. Et je crois que c'est fondamental dans notre foi, ça. Mmh. L'année prochaine, on verra les messianismes. Mmh. Les messianismes, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans un univers qui n'est pas fini, qui n'est pas achevé. Le projet de Dieu est en marche, mais il n'est pas fini. Mmh. Alors, nous sommes mêlés avec ce bien et ce mal. Hein. C'est ce que Dieu dit à Job aussi. Hein. Ce monde, cet univers, il n'est pas terminé. Hein. Alors tu juges déjà comme si le monde était terminé. C'est un monde en devenir avec pour nous le sens de l'histoire, puisque la Bible, c'est justement le Dieu dans l'histoire.
Mmh. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ou quelques... Peut-être... Allons-nous vous remercier encore, parce que ça a été très riche. Merci. Vous avez tout à fait éclairé sur beaucoup d'aspects aussi très, très humains et très personnels. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. dans l'écoute. Relativement, il y a peu d'annonces ce soir, voire pas d'annonces.
Moi, je me...
avec une frappe courte. Peut-être celle à Norbert me dit qu'il a quelque chose à dire.